Bonjour Fabrice et bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet d'actualité, on vient de l'entendre, l'histoire d'une organisation qui tient tête à Israël depuis près d'un quart de siècle, le Hezbollah. Quiconque prend Dieu, son messager et les croyants pour alliés réussira. Car c'est le parti de Dieu qui sera victorieux. Verset du Coran. D'histoire. Sur le drapeau jaune du Hezbollah, au-dessus d'une main tenant un fusil, on peut lire ce verset du Coran : Quiconque prend Dieu, son messager et les croyants pour alliés réussira, car c'est le parti de Dieu qui vaincra. En 24 ans, dans son fief du Sud-Liban, le parti de Dieu, le Hezbollah, a profondément bouleversé les rapports de force dans le conflit du Proche-Orient. Avec le soutien de l'Iran et d'une bonne partie de l'opinion au Liban et dans tout le monde arabe, il est devenu l'adversaire le plus redoutable d'Israël. Le premier, avoir fait reculer l'État hébreu depuis sa naissance en 1948. Ni les pays arabes, ni le mouvement palestinien, ni même la pression internationale n'avaient réussi jusque-là à tenir tête à Israël comme l'a fait le Hezbollah à plusieurs reprises. Y compris lorsqu'en juillet dernier, le gouvernement israélien lançait les chars de Tsahal à l'assaut du Sud-Liban afin d'en finir une fois pour toutes avec le Hezbollah. France Inter, Jacqueline Petros et Daniel Tabor, le 12 juillet 2006.
Bonsoir. Bruit de chars et de bombardements au Liban. L'armée israélienne a lancé une offensive terrestre et aérienne au Liban Sud après l'enlèvement par le Hezbollah de deux soldats à la frontière israélienne.
France Inter. C'est une déclaration de guerre. Sur le terrain, depuis plusieurs heures, l'aviation, l'artillerie et la marine israélienne continuent de bombarder des positions du Hezbollah et des infrastructures libanaises.
C'est vraiment un cauchemar. Moi, je suis venue passer les vacances. On était au sud et puis tout d'un coup, on commence à voir les bombes israéliennes tomber sur nos têtes. Ils ont bombardé tout l'immeuble. On a vu les enfants vraiment en morceaux, les hommes brûlés à vif. Et moi, j'ai vraiment très, très peur. Et puis là, je suis avec mon bébé qui a 2 ans et demi. On mange plus, on dort pas. Et on sait pas quoi faire, en effet.
C'était le témoignage émouvant, donc, d'une Libanaise au moment où les Israéliens lançaient une offensive en juillet dernier. Georges Corme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien ministre des Finances du Liban, mais aussi historien et auteur d'un livre, Le Liban contemporain, qui a été édité à La Découverte. Alors, le Liban, en juillet dernier, je le disais, où le gouvernement israélien lançait une offensive de grande envergure qui n'a pas épargné, on l'a entendu, la population civile, alors qu'officiellement, il s'agissait d'éliminer le Hezbollah. On en a beaucoup parlé pendant tout l'été. Nous y reviendrons, mais je voudrais, au préalable, et pour mieux comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours, que l'on rappelle avec vous l'histoire du Hezbollah et les circonstances dans lesquelles il est né, au Sud-Liban, dans une région qui était déjà occupée par Israël en 1978. C'est dans une partie du Liban occupée que naît le Hezbollah.
Oui, bien sûr. Le sud du Liban a été martyrisé par Israël depuis 1968-69. Il faudrait rappeler les grandes opérations qu'a faites Israël entre 68 et 70 et 78 au sud du Liban. Donc vous avez une population qui est déjà martyrisée depuis longtemps. Puis en 78, Israël envahit le sud du Liban, essaye de rester jusqu'au Litanie, mais elle est quand même obligée de se retirer sous pression des Nations Unies à l'époque, la résolution 425. Mais ce que tout le monde oublie, c'est que c'est elle qui empêche le déploiement de la FINUL jusqu'à la frontière. Mmh. Qu'elle garde donc ce qu'elle appelle une zone de sécurité où elle installe des supplétifs libanais pour maintenir son occupation qui va durer 22 ans.
La LS, l'armée du Liban Sud.
L'armée du Liban Sud.
Quel était l'objectif d'Israël à l'époque? On dit que dans l'esprit du gouvernement israélien et peut-être même d'ailleurs du mouvement sioniste depuis longtemps, l'annexion carrément de cette région en raison de ses fleuves, de l'eau, du Litani, du Jourdain.
Alors, et il est important de rappeler qu'à la conférence de la paix à Versailles après la Première Guerre mondiale, donc bien avant la création de l'État d'Israël, le mouvement sioniste à l'époque présente des cartes aux chefs d'État européens qui sont réunis là, dans lesquelles elle inclut tout ce château d'eau, comme vous l'avez mentionné, qui est le sud du Liban, comme faisant partie du territoire de la Palestine sur lequel elle obtient la création du foyer national juif. Et à l'époque, la France, qui allait recueillir un mandat sur le Liban, s'est opposée énergiquement aux demandes anglaises qui soutenaient la création du foyer national juif en Palestine.
Donc en 78, occupation du sud Liban qui va durer 22 ans, ça c'est avant la création du Hezbollah, de même qu'un autre événement qui peut expliquer aussi sa naissance, c'est un an plus tard, en 79, la révolution islamiste en Iran, qui bien entendu intéresse, qui passionne même la population chiite du Liban, qui justement est majoritairement chiite au sud Liban, Georges Cormes.
Oui, alors deux remarques ici, c'est que d'abord la révolution iranienne a largement dépassé le cadre chiite. Mmh. Vous avez de grands intellectuels français, je pense à Michel Foucault, mmh, qui se sont extasiés. Hein. Ça a été la forme nouvelle d'anti-impérialisme après l'échec quand même relatif, je dirais, mais pas total, du nationalisme arabe d'un côté ou d'autres mouvements du tiers-monde, n'est-ce pas? Et deuxième remarque, c'est que au fond, chaque communauté libanaise a des liens avec l'extérieur. Les chrétiens l'ont avec le Vatican, la France, l'Italie, les Grecs orthodoxes avec la Russie et la Grèce. Les chiites ont, depuis l'apparition de l'islam, des liens avec les grands centres de la pensée chiite qui se trouvent en Irak et en Iran. Donc, et nous avions déjà reçu un imam d'Iran, qui était l'imam Moussa Sadr, qui disparaît en Libye en 1979 et ou 78, l'année même de l'occupation du sud du Liban, et qui va être un grand inspirateur d'un renouveau chiite au Liban.
En tout cas, c'est un mouvement chiite au départ, qui est le Hezbollah, très lié, nous en reparlerons, Georges Cormes, avec l'Iran, mais en 79, le Hezbollah n'existe pas, et c'est en 82 qu'il va apparaître lorsque le gouvernement israélien de Menachem Begin déclenche au Liban l'opération Paix en Galilée et atteint Beyrouth. France Inter, Thierry Guerrier, le 6 juin 1982.
Bonjour. Opération Paix pour la Galilée. Voilà comment Menachem Begin a intitulé hier soir l'action militaire de grande envergure lancée par Israël au sud Liban. L'objectif, ajoute-t-il, est de repousser les Palestiniens de 40 kilomètres vers le nord.
Now, ladies and gentlemen,
mesdames et messieurs,
so we didn't enter Beyrouth and we hesitated. Yes, indeed,
nous ne sommes pas entrés dans Beyrouth. Nous hésitons. L'hésitation est humaine.
But we will have to take care that all the terrorists leave Beirut.
Mais nous veillerons à ce que tous les terroristes quittent Beyrouth et le Liban. Il n'en restera pas un seul. Croyez-moi, pas un seul.
C'était Menachem Begin parlant de terroristes. À l'époque, il faut le rappeler, le Hezbollah n'existe pas et les terroristes dont parle Menachem Begin, à ses yeux en tout cas, ce sont les Palestiniens. C'est pour éliminer les Palestiniens présents au Liban, les réfugiés palestiniens, que et l'OLP qu'intervient Israël en 82, Georges Cormes.
Oui, mais les Palestiniens sont aussi en alliance avec ce qu'on appelait le mouvement national libanais, qui était un regroupement de partis laïcs qui faisait aussi de la résistance au sud. Et on va voir l'État d'Israël créer un camp de concentration qui était le camp d'Ansar, bien avant celui de Khiyam qui sera créé plus tard, dans lequel il y a à peu près 10 000 prisonniers libanais qui appartiennent à ces partis, le Parti communiste, Parti populaire syrien, le Parti Baas, etc., etc. Mais j'ai entendu votre archive sonore. Le terrorisme de quelqu'un est toujours le combattant
oui,
de la liberté.
Mais ça, on y reviendra. J'ai bien dit que c'est ce que disait Menachem Begin.
Oui, mais les structures du discours sont toujours pareilles, oui, n'est-ce pas?
Alors, cela dit, ce que n'imaginaient sans doute pas les Israéliens, c'est que leur intervention allait provoquer la naissance du Hezbollah juste après, justement, l'arrivée. Il y a le départ d'abord de l'OLP, et puis la naissance du Hezbollah, qui est la fusion d'un certain nombre d'organisations, non pas laïques cette fois-ci, mais islamistes. Ce genre de corne.
Oui, non, je ne crois pas qu'elle ne prévoyait pas. Je crois qu'elle l'a au départ encouragée parce que elle était présente.
Le Hezbollah.
Oui, comme elle a encouragé aussi l'émergence de Hamas en Cisjordanie et à
Pourquoi
Gaza. Ben parce que c'est divisé pour mieux régner. Ben à l'époque, on mettait en déroute les anciens partis qui avaient fait de la résistance armée, qui étaient Front de Libération pour la Palestine, Fatah, etc. Et on lançait Hamas pour leur faire pièce. Ça a été pareil au Liban, où on a laissé des afflux d'armes iraniens avec la présence non seulement des troupes israéliennes, mais aussi de la force multinationale d'interposition, où il y avait des bataillons américains, français et italiens. Ces armes sont passées et en toute connaissance de cause.
Alors, le Hezbollah qui se crée n'est pas un parti laïque, c'est le parti de Dieu, hein, et c'est un parti dont les objectifs sont, entre autres, de, au fond, installer aussi au Liban une république islamique. Ça, c'est sur le modèle iranien.
Ça, c'était à l'origine. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Mais à l'origine, oui, c'était... si vous voulez, le souffle iranien, le souffle de la révolution était le facteur principal. Et nous allons voir que jusqu'en 88, le Hezbollah va avoir une politique qui est pratiquement dictée, effectivement, par les intérêts iraniens. C'est notamment les enlèvements d'otages occidentaux qui se font pour le compte de l'Iran, parce que, comme on le sait, les pays occidentaux ont soutenu...
On y reviendra, ça, pour ces otages occidentaux. Mais là, je parle des objectifs. Hein. Donc, répandre la révolution islamique. Il y a aussi la défense et surtout la libération de la partie du Liban occupée par Israël. Alors, c'est le principal.
Oui, mais là aussi, bien sûr, et ce qui accélère cette lutte de libération, à ce moment-là, c'est le fait que les troupes israéliennes vont enlever le vendredi à la prière des cheikhs du Hezbollah et les emprisonnent pendant des années, ce qui évidemment, à ce moment-là, a fait basculer l'ensemble du mouvement beaucoup plus vers des actions de résistance que vers pour libérer le territoire qui est celui de la communauté chiite, si l'on veut, où elle est tout à fait majoritaire et où elle en a assez depuis des années, je me disais depuis 68, d'avoir à faire face aux Israéliens.
Au début, on connaît assez peu en France, et même dans les pays occidentaux, l'existence de ce mouvement, le Hezbollah, qui naît en 82. En 83, on en parle d'ailleurs en lui attribuant la responsabilité des attaques, des attentats suicides contre les forces militaires, la présence occidentale dans la région, c'est-à-dire tout simplement les soldats français américains de la force d'interposition qui avait été installée en 82. On se souvient en 83 de la mort de 58 Français, de 248 Américains. Est-ce que le Hezbollah en était responsable?
Écoutez,
parce qu'on en a parlé à l'époque.
Je crois que c'est plus aujourd'hui qu'on tente de l'attribuer au Hezbollah qu'à l'époque. À l'époque, le Hezbollah était à peine naissant, là aussi. Et on a, à mon avis, jamais identifié quelle était l'origine de ces camions piégés. Est-ce que c'était Damas? Est-ce que c'était Moscou? Mécontent de voir les Américains débarquer au Liban? Est-ce que c'était le djihad islamique? Parce que j'ai des souvenirs aussi qu'on avait parlé de djihad islamique. Je ne sais pas, je crois que ça reste inexpliqué.
Alors, en revanche, la responsabilité du Hezbollah en ce qui concerne les prises d'otages dont vous parliez à partir de 85 semble plus évidente. C'est le cas, oui, effectivement, d'un certain nombre d'otages occidentaux. On se souvient de Jean-Paul Kaufmann qui est resté pendant 3 ans entre 85 et 88 entre les mains du Hezbollah. D'ailleurs, une responsabilité du Hezbollah qui est assez évidente quand on écoute cette archive. France Inter, Serge Martin, le 14 juillet 1986.
Peut-être une nouvelle lueur d'espoir pour les otages français toujours retenus à Beyrouth. En effet, pour la première fois, l'un des leaders Hezbollah, Hussein Moussaoui, donne des précisions, ou plus exactement des explications, sur l'évolution du sort de ces otages.
Le problème des otages, ça dépend de ce que fait Chirac, dépend de la relation des musulmans avec la République islamique. Parce que l'imam Khomeini et le gouvernement à Téhéran, ils sont notre gouvernement.
Des hommes. Alors on l'a entendu dans la bouche de Moussaoui, le Hezbollah en 85 ne cache pas ses liens avec l'Iran et au fond c'est une espèce de chantage exercé sur la France pour que
la France diminue ses livraisons d'armes. C'est l'époque où la France livre des exocètes à l'Irak dans sa guerre contre l'Iran.
Oui, dans la guerre Iran-Irak.
Ah oui, c'est le facteur principal à l'époque, des gens qui expliquent les enlèvements d'otages. Et d'ailleurs, on aura le scandale de l'Iran-Gate aux États-Unis.
Oui. Mais ça veut dire, George Com, qu'en quelque sorte, le Hezbollah est une marionnette entre les mains de l'Iran, ou son instrument au Liban.
Non, le Hezbollah a déjà, à cette époque, ce double visage. avant de muter définitivement pour ce que j'appellerais rentrer dans un processus de libanisation qui est maintenant très achevé. Mais déjà à l'époque, il a le double visage, il fait de la résistance au sud, mais en même temps, effectivement, avec les enlèvements d'otages, il sert la politique iranienne et les Iraniens estiment qu'ils ont été agressés par Saddam Hussein sans raison et que la communauté occidentale fait preuve d'une partialité évidente en faisant toutes ces livraisons d'armes massives à l'Irak alors qu'elle-même est privée et sous embargo économique des États-Unis à l'époque.
Donc c'est des enlèvements commandités par l'Iran, exécutés par le Hezbollah. On comprend. D'ailleurs, c'est surtout à cette époque-là qu'on commence à en parler en France, où sans doute l'organisation n'est pas très populaire. En tout cas, à l'époque, on évoque aussi un soutien très actif de la Syrie, Georges Cormes. Quand est-ce que la Syrie...
Oui, mais la Syrie n'est pas très à l'aise, justement, d'une trop forte influence iranienne sur le Hezbollah. D'ailleurs, ceci va se traduire par un heurt très violent entre le Hezbollah et l'armée syrienne lorsque l'armée syrienne, sur demande du gouvernement libanais, revient à Beyrouth Ouest, où elle avait été chassée par les Israéliens en 82, et là qu'elle fait le coup de feu contre le Hezbollah, et il y a 16 morts côté du Hezbollah, et donc on a senti souvent d'ailleurs même des tensions entre la Syrie et l'Iran sur la répartition des rôles entre la Syrie et l'Iran sur la scène libanaise en général. Mais ceci dit, ensuite, les choses, dès que la guerre Irak-Iran va cesser, le Hezbollah n'a plus de cause iranienne à défendre ou à gérer, et il va rentrer dans ce que moi j'appelle un processus de libanisation de plus en plus accéléré.
Et de lutte contre la présence israélienne au sud du Liban, alors là, par une quantité d'actions, il y en a énormément, je crois 3 ou 4 par jour, importantes contre les soldats israéliens qui sont au sud du Liban depuis 78, et des embuscades, des bombes télécommandées, des actions kamikazes. On dit que c'est le Hezbollah qui a inventé les attentats suicides.
Écoutez, les attentats suicides, d'après ce que j'ai lu, ont été plutôt inventés au Sri Lanka dans la rébellion des Tamouls. Bien avant que le Hezbollah ne fasse des attentats suicides.
On peut évoquer aussi les pilotes japonais pendant la guerre. Oui, enfin, dans la région, en tout cas, c'est un peu l'apparition tout de même dans ces années-là des attentats suicides, une action qualifiée de résistance par les uns ou de terrorisme par les autres, comme Lionel Jospin, à l'époque Premier ministre, quand il s'est rendu en visite officielle en Israël, France Inter, Véronique Julia, le 25 février 2000.
Lionel Jospin en Israël, en visite officielle pour 3 jours. Le Premier ministre a par ailleurs condamné les attaques du Hezbollah contre Israël en les qualifiant de terroristes. On écoute Lionel Jospin hier au micro de Pierre Veil.
La France condamne les attaques du Hezbollah et de toute façon toutes les attaques terroristes qui peuvent être menées, ou qu'elles se mènent d'ailleurs, et notamment contre des soldats ou éventuellement la population civile israélienne. La France, donc, qui condamne ces attaques, a le souci et a eu l'occasion de l'exprimer publiquement que les répliques qui viennent, et que nous pouvons comprendre, soient autant que possible, je ne dirais pas proportionnées, car je ne saurais pas définir une proportion, mais qu'elle frappe aussi peu que possible les populations civiles.
C'était Lionel Jospin en Israël en 2000, qualifiant l'action du Hezbollah de terroriste. C'est un mot qui lui a valu une volée de bois vert et même de pierre, hein, quand il est allé visiter Ramallah et les territoires palestiniens. Ça a été très mal interprété. Est-ce qu'on peut, justement, est-ce que c'est une gaffe? Est-ce que c'est délibéré, ces propos de Lionel Jospin?
Si vous voulez, c'est la logique inverse qui règne en matière de Moyen-Orient. C'est-à-dire que même aujourd'hui, à la limite, on a l'impression que c'est le Hezbollah qui a 10 000 prisonniers israéliens dans ses prisons, qui a occupé pendant 22 ans une partie d'Israël, etc. C'est chaque fois la logique inversée.
C'est un mot qui divise la communauté internationale. Je crois que l'ONU refuse de qualifier le Hezbollah d'organisation terroriste, alors qu'en revanche, Israël, bien sûr, les États-Unis aussi le souhaite. Il faut rappeler peut-être, Georges Cormes, quand même, qu'en 2001, le Hezbollah a condamné les attentats de New York.
Oui, non, mais un des grands problèmes, c'est la définition que les États-Unis sont progressivement en train de répandre dans le monde du terrorisme qui confond complètement des actes de résistance tout à fait légitimes à des occupations comme, telles que celles que le Hamas fait en Palestine ou que le Hezbollah fait au Liban avec les actes des mouvements djihadistes et Ben Ladenistes qui peuvent frapper des innocents effectivement à New York, à Madrid, à Londres et qui sont
c'est
eux
pas
tout
pareil,
à fait
condamnés. Alors, cela dit, ça sert, ce terme de terroriste sert évidemment à justifier des interventions israéliennes qu'on a un peu oubliées. Il y en a eu plusieurs, des règlements, opérations règlement de compte en 93, opération raisin de la colère en 96.
Oui, il y a eu le premier massacre de Cana, au même village où on a eu un second massacre, cette fois-ci, au mois de juillet.
De Libanais, oui.
De Libanais, par des bombardements israéliens. Et le premier massacre de Cana en 96, c'était des Libanais réfugiés dans des bâtiments de l'ONU avec le drapeau de l'ONU que les Israéliens ne pouvaient pas manquer de voir. Ce qui a ensuite fait que la France est intervenue très énergiquement. À l'époque, Monsieur Hervé Charette était ministre des Affaires étrangères et il y a eu conclusion d'arrangements, ce qu'on a appelé les arrangements d'avril, par lequel en fait la légitimité de la résistance du Hezbollah était reconnue indirectement aussi bien par les États-Unis que par l'État d'Israël.
Vous avez évoqué, Georges Corme, une prison, je crois qu'elle était tristement célèbre, en territoire libanais, une prison israélienne qui était la prison de Riyam, où je crois 3000 personnes ont été enfermées, et parfois beaucoup des femmes, donc à la demande d'Israël, et par Israël, une prison libérée en mai 2000, lorsque, de guerre lasse, les Israéliens décidaient d'évacuer le sud Liban. France Inter, Alain Passerelle et Frédéric Daumont de RFI, le 24 mai 2000.
Le retrait israélien du Liban Sud est terminé. Les derniers militaires ont franchi la frontière il y a une heure et demie environ. Ainsi s'achèvent 22 années d'occupation.
France Inter.
C'est dans le sauf qui peut général que le principal symbole de l'occupation israélienne, la prison de Riyam, est tombé hier. Écoutez le reportage de Frédéric Daumont.
Poussée par l'euphorie du moment, brandissant des drapeaux du Hezbollah, une foule compacte pousse les portes du pénitencier. Riyam est libéré. La joie règne maintenant. Ce qui arrive aujourd'hui, on l'attendait depuis très longtemps. Les femmes jettent des grains de riz et des pétales de roses.
On sent une grande joie, la victoire pour la première fois. On entendait cette victoire depuis 20 ans. Et le Khomeini nous a dit qu'il viendrait un jour où Israël sera parti, et ce jour, c'est aujourd'hui. On a prouvé aux Juifs qu'on est la plus grande force, la plus grande puissance dans le monde entier. C'est la résistance islamique.
Et c'était l'atmosphère au sud Liban. Il y a 6 ans, on a l'impression que c'était peut-être le mois dernier, mais c'était il y a 6 ans quand l'armée israélienne évacuait les territoires qu'elle occupait au sud Liban depuis 1978. Une atmosphère que vous avez vécue, je crois que c'est à ce moment-là que vous étiez ministre, Georges Corme.
Oui, je suis parti à 5 heures du matin de chez moi, dès que j'ai su que les troupes israéliennes se retiraient, parce qu'on était quand même très inquiets de ce qui pouvait se passer après le départ des Israéliens, notamment de règlements de compte qui pourraient avoir lieu. Et c'est là
contre les
familles de collaborateurs ou les collaborateurs qui avaient quand même été nombreux,
oui.
Libanais. Et là, je dois dire que mon regard sur le Hezbollah a quand même beaucoup évolué. J'ai trouvé un interlocuteur dans tous les villages d'une discipline extraordinaire. L'accord qui avait été passé entre lui et l'État libanais que les collaborateurs seraient remis à la justice libanaise pour les juger a été parfaitement respecté. Il y avait des craintes dans certains villages, mais justement, j'ai été pour m'assurer que tout se passait bien. Et véritablement, ça a été tout à fait exceptionnel, surtout lorsqu'on pense à tout ce qui s'était passé lors du retrait israélien après l'invasion de 82, où on avait eu 10 000 morts dans le Chouf par les massacres interconfessionnels entre Druzes et Maronites. Donc là, vraiment, j'ai dû tirer mon chapeau, et c'est là que je me suis rendu compte de combien le parti s'était libanisé.
Oui, justement, parce que est-ce que au début, je pense qu'il était exclusivement chiite, il avait une vocation purement religieuse, en tout cas établir la révolution islamique. Quelle est son évolution de ce point de vue?
Alors, il y a eu une évolution très forte avec plusieurs étapes. On peut dire que, bon, j'ai mentionné la première étape est 88, lorsque finalement l'Iran termine sa guerre avec l'Irak, ce qui permet au parti de se concentrer exclusivement sur la libération du sud du Liban. Mais ensuite, c'est 92, lorsque le parti abandonne indirectement son slogan de République islamique puisqu'il participe aux élections, qui sont les premières élections qui se tiennent depuis le début des années 72 au Liban, puisqu'on avait eu les 15 ans de guerre. Et il fait un très bon score, déjà à l'époque. Et puis ensuite, c'est aussi l'année où Saïd Nasrallah, qui est l'actuel chef du Hezbollah, prend les rênes du parti et va de plus en plus l'infléchir dans un sens de son insertion totale dans le terreau libanais.
Alors un mouvement militaire, un parti, une organisation sociale importante qui explique peut-être aussi, parce que ce n'est pas seulement des hommes armés, c'est aussi une intervention dans les domaines de l'enseignement, de la santé, c'est une télévision, Al-Manar, c'est presque un État dans l'État.
Il n'est pas dans l'État, parce qu'il n'a pas d'influence sur l'État, ou il n'a pas des hommes à lui dans l'État, le Hezbollah. Donc, c'est tout à fait impropre comme terminologie de dire c'est un État dans l'État. Le Hezbollah, c'est effectivement une branche militaire dont on a vu l'efficacité encore une fois récemment, mais c'est surtout un vaste réseau d'ONG qui distribue énormément d'aide sociale.
Et mais ça, dans tous les mouvements islamistes le font, Georges Cormes, seulement au Liban.
Non, mais au Liban, enfin, je connais pas les autres réseaux, mais au Liban, si vous voulez, d'abord, c'est fait au grand jour. Tout le monde peut aller les voir. Les distributions d'aide se font dans les villages mixtes indistinctement aux chrétiens et aux musulmans. Il y a une transparence qui n'existe pas ailleurs.
Mais maintenant que le Liban a été libéré, d'abord en 2000, puis après l'invasion israélienne de juillet dernier, c'est une victoire incontestablement du Hezbollah. Quelle est la signification? Pourquoi ne désarme-t-il pas? Est-ce que c'est imaginable même son désarmement?
Non, écoutez, je crois que c'est faux de dire que le Liban avait été libéré. C'est-à-dire le Liban, tant qu'il est, il a son espace aérien et maritime violé quotidiennement par les Israéliens, tant qu'il y a de temps en temps des bergers, des pêcheurs qui sont enlevés, etc., en plus de la question des fermes de Sheba et des prisonniers libanais, et des milliers de mines qui ont été laissées de l'occupation des 22 ans, il est difficile de dire ça y est, tout est terminé, et de demander un désarmement à la communauté qui a le plus souffert de cette occupation israélienne.
Et puis il a la force aussi du prestige que lui a conféré effectivement ces deux victoires en quelque sorte sur Israël. Merci en tout cas Georges Cormes. Je rappelle pour en savoir plus que vous êtes l'auteur du livre Le Liban le contemporain qui a été publié aux éditions La Découverte fin 2005, à lire aussi de Frédéric Daumont et Walid Charara Le Hezbollah, un mouvement islamo-nationaliste publié en 2004 chez Fayard, ainsi que ça c'est beaucoup plus large, une histoire générale du Liban depuis ses origines, de Denis Hamoun, édité en deux volumes chez Fayard également. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Olivier Riotor et Éric Morin, documentation et archives sonores Claire Destacan, Léna Lebrodonec et Caroline Chausset. Et une réalisation d'Anne Kobilac, bien sûr.